Arcania, Haute Turma.
Jacques Lavergne.
Bonjour. Bonjour. Arcania, l'émission résiliente. La chose importante à garder en tête est qu'il ne faut jamais attendre une minute pour commencer à changer le monde. Extrait du journal d'Anne Frank.
Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Aujourd'hui, dans les quelques numéros qui vont suivre, Arcania va vous parler d'un élément essentiel à la vie de l'homme, certes, mais aussi de tout ce qui habite sur Terre. Un élément sans lequel il n'y aurait pas de vie sur cette planète, souvent qualifiée de bleue, notamment lorsqu'on l'envoie de l'espace, qui n'est pas donné à tout le monde. Je veux bien sûr évoquer l'eau. Un bien commun aujourd'hui menacé par la pollution, la rareté, la mauvaise utilisation qui en est faite. Un bien dont la répartition est très inégale sur cette planète. Certains en disposent en abondance, d'autres en sont privés. Comment la protéger, mieux la distribuer, l'utiliser dans les années à venir? Comment éviter qu'elle soit source de conflits, voire de guerres, et beaucoup d'autres problématiques?
Oui Jacques, en France métropolitaine et dans les Outre-mer, encore beaucoup trop de populations n'ont pas accès à l'eau potable. Et on peut aisément imaginer que dans les prochaines années, le problème de l'accès à l'eau va s'aggraver. Au vu des migrations de plus en plus nombreuses, conséquences du changement climatique, comment faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à de l'eau potable de qualité? Car trop souvent, les populations précaires sont obligées de s'approvisionner à de l'eau impropre à la consommation. Par exemple, à Mayotte, petit territoire d'outre-mer français, près de 30% de la population n'a pas l'eau courante à domicile. Quant à l'assainissement, c'est catastrophique. Seulement un tiers de la population dispose d'un assainissement collectif qui permet de traiter les eaux usées avant qu'elles ne finissent dans les cours d'eau ou le lagon. Une eau polluée, c'est synonyme de dégradation de l'environnement, mais c'est aussi synonyme de maladie, d'épidémie, et d'ailleurs la crise de la Covid nous l'a bien montré. On voit bien à travers cet exemple qu'on ne peut pas parler de pollution de l'environnement, ici de l'eau, sans aborder les conséquences sociales. Et ce sont ces conséquences sociales dont nous allons parler aujourd'hui. En France, il n'y a pas de droit à l'eau comme il existe un droit de l'environnement. Les associations et les ONG essayent depuis des années de faire passer le droit à l'eau pour tous comme un droit fondamental en France et dans le monde. Pour évoquer ces questions, nous recevons aujourd'hui en duplex Edith Guyochon du collectif Coalition Eau pour nous éclairer sur les enjeux du droit à l'eau.
Bonjour Madame Guyochon.
Bonjour.
Alors vous êtes à Paris, dont nous avons une ligne qui fonctionne, mais il semblerait qu'il y ait quelques bruits parasites que nos auditeurs voudront bien nous pardonner, j'espère.
On entend parler de crise globale de l'eau, mais qu'est-ce que cela signifie au juste? Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu les enjeux?
Oui, mais c'est un petit peu ce que vous avez présenté en introduction. On voit que l'eau est un enjeu écologique et social majeur du XXIe siècle. Aujourd'hui déjà, la pénurie d'eau affecte plus de 40% de la population mondiale. Et ça devrait augmenter avec la crise climatique qu'on vit aujourd'hui. Finalement, c'est par l'eau qu'on ressent, nous les humains et les êtres vivants de la planète, les effets du changement climatique. Mais ça, le climat ne vient qu'aggraver des pressions déjà multiples qui sont exercées sur la ressource en eau par l'activité humaine. La pollution, l'agriculture intensive, le gaspillage d'eau, etc. En fait, en termes d'enjeux, on peut déjà partir du constat que l'eau c'est un droit humain, un bien commun, on voit que avec l'épidémie de Covid-19, cet accès à ce droit humain est finalement assez inégalitaire. Il y a beaucoup d'injustices dans l'accès à l'eau. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 2 milliards de personnes qui vivent sans accès à une eau potable.
Ce qui est énorme.
Donc c'est près d'un tiers de l'humanité, voilà. Et sans parler de l'accès à l'assainissement, donc là, l'accès à des toilettes, tout le système d'assainissement dont le chiffre de non-accès est encore plus important. Face à ça, en 2010, les États ils se sont engagés à reconnaître cet accès à l'eau potable et à l'assainissement comme un droit humain fondamental. Et en 2015, ils ont même fixé un objectif qui serait d'accéder à à un accès universel et à une gestion durable de l'eau d'ici 2030. Donc c'est les objectifs du développement durable, l'objectif numéro 6 qui concerne l'accès à l'eau.
Edith Diochon, je vous coupe une question, mais l'eau, il y en a autant qu'à l'époque des dinosaures. En réalité, c'est tout simplement d'abord qu'on est plus nombreux et donc les besoins ont augmenté et qu'elle est mal répartie et mal utilisée.
Exactement, oui, oui. La quantité d'eau en elle-même ne bouge pas. Le cycle de l'eau, lui, continue et la quantité d'eau est toujours la même depuis des siècles et des siècles. Mais le défi principal, c'est sa gestion, sa bonne gestion et son accès universel, égalitaire pour toutes les populations, quel que soit leur statut, leur niveau de vie, leur emplacement géographique. Et pour relever ces défis d'accès, on a déjà des solutions, elles sont connues. C'est améliorer la gestion partagée de l'eau, c'est protéger la ressource, c'est augmenter aussi les financements pour les installations, financer les services, former aussi les personnes qui investissent dans le secteur. Donc on a les solutions, mais malgré ça, le sujet souffre d'un manque de priorisation politique et de politiques publiques ambitieuses et qui soient effectivement mises en œuvre avec des financements qui soient à la hauteur. En fait, on constate là que les objectifs internationaux qui ont été donnés en 2010 et en 2015, ils seront pas atteints d'ici à 2030. On estime à 107 pays qui ne sont pas en bonne voie pour garantir cette gestion durable de l'eau et l'accès universel pour 2030. Donc voilà encore un peu le panorama au niveau international.
Et justement, au niveau français, on en est où ?
Alors au niveau français, donc il y a 99% de la population qui a accès à un réseau d'alimentation en eau potable. Donc l'accès à l'eau potable, à l'assainissement, il est effectif, mais malgré tout, il y a ce pourcentage-là de la population pour lequel l'accès à l'eau est problématique. Et là, on peut dire qu'il s'agit principalement de personnes qui sont en situation de précarité, en état de marginalisation, ou en tout cas de difficultés financières. On estime à plus d'un million de ménages qui ont du mal à payer leurs factures d'eau, donc pour qui le prix de l'eau pèse trop fort dans le revenu mensuel. Et une autre catégorie de population qui a des difficultés d'accès à l'eau sont les personnes qui finalement ne sont pas raccordées à un réseau de distribution d'eau. Donc c'est environ 400 000 personnes qui n'ont pas cet accès via un robinet à domicile.
Et dit Guillauchon, l'eau en France, c'est l'affaire de qui ? C'est l'affaire de la puissance publique ou de groupes privés ?
Alors l'eau en France, c'est un service public. C'est même considéré comme un patrimoine commun. Donc c'est un service public. Il y a la compétence de la gestion de l'eau est attribuée aux collectivités territoriales. Actuellement, elle est reprise en main par les intercommunalités, donc les métropoles ou les regroupements de communes, qui parfois soit gèrent l'eau, le réseau d'eau en direct, en régie publique, soit établissent des délégations de services publics, donc là travaillent avec des entreprises privées. Mais l'entreprise privée travaille finalement pour mettre en place, gérer un service public. On est quand même dans un cadre public.
Est-ce que l'eau est chère en France ? Est-ce qu'on peut dire qu'elle est chère en France et par rapport à d'autres pays, par exemple, européens ?
Alors la difficulté en France, c'est que le tarif de l'eau est très variable selon les collectivités, selon les départements. Il y a des grosses différences de prix de l'eau qui va dépendre de l'état de la ressource, du besoin de la traiter. Il y a des grosses variations du prix de l'eau. C'est ce qui rend aussi difficile la mise en place de mécanismes d'aide pour aider les gens qui doivent payer leur facture d'eau. Parce que parfois le prix de l'eau va être assez cher et dans d'autres communes qui ont pu prendre des mesures de tarification plus progressives par exemple, l'eau va être moins chère. Donc c'est assez difficile d'avoir une réponse claire là-dessus. On peut surtout dire que le prix de l'eau est très éclaté en France.
Et je me demandais justement, 1% de la population en France qui n'a pas accès à de l'eau potable, pourquoi justement n'est pas à 100%? Qu'est-ce qui rend cette couverture pas totale?
Alors, ce qui rend la couverture totale difficile, c'est que là, le pourcentage qui reste à couvrir, finalement, c'est majoritairement les personnes qui ne sont pas raccordées. Donc là, on se confronte aussi à des problématiques de logement insalubre, de zones d'habitat qui vont être à l'extérieur des schémas de distribution d'eau potable. Donc c'est là la difficulté, c'est que finalement les collectivités, elles sont compétentes pour gérer et identifier le schéma de distribution d'eau et gérer le réseau d'eau potable. Alors il y a aussi des problématiques d'état du réseau, de fuite d'eau, mais pour les personnes qui ne sont pas dans le schéma de distribution, on ne sait plus vraiment qui est compétent en la matière. Qui est compétent pour...
Il y aurait un flou juridique, c'est ça ?
Il y a un flou juridique donner l'accès à l'eau des personnes qui ne sont pas raccordées. Quand on parle de personnes non raccordées, en fait, on parle finalement des personnes qui vivent soit à la rue, soit dans des bidonvilles, soit dans des campements. Donc c'est des personnes qui sont déjà dans un état d'exclusion, de marginalisation. Et qui est compétent pour permettre à ces personnes d'accéder à l'eau, ça peut être la collectivité, mais il y a aussi la préfecture qui rentre en jeu, il y a aussi la compétence de lutte contre la pauvreté. Donc finalement, il y a plusieurs acteurs qui rentrent en ligne de compte et il y a un flou sur qui doit prendre la décision de donner un accès à l'eau à ces personnes. C'est par ailleurs assez politique comme sujet parce que on voit bien que donner un accès à l'eau, finalement, c'est aussi se dire que on va donner accès à l'eau on voit bien la problématique, par exemple, sur le littoral nord à Calais, c'est très politique. Il y a un manque de volonté politique pour se dire qu'on va donner à l'eau à toutes les personnes, quelle que soit leur situation administrative, quel que soit leur état de passage sur le territoire français.
Et justement, donc, Edith, Coalition Eau, c'est quoi ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les missions du collectif ?
Alors, la Coalition Eau, elle a été créée en 2007. C'est un collectif d'ONG françaises qui interviennent dans le secteur de l'accès à l'eau et de l'assainissement. Donc, des ONG qui sont engagées, finalement, pour la mise en œuvre des droits humains à l'eau potable et à l'assainissement. À l'origine, ce sont des ONG qui sont qui interviennent plutôt à l'international dans le cadre de projets de coopération internationale et qui mettent en œuvre des projets d'accès à l'eau. Depuis plusieurs années, il y a une mobilisation d'associations aussi sur le territoire français, en partant du constat de tout ce qu'on vient de dire, finalement, qu'il y a aussi une partie de la population vulnérable qui ne peut pas bénéficier d'accès à l'eau et à l'assainissement. Donc il y a des ONG qui ont commencé à se questionner sur ce qui était possible de faire en France aussi. Et donc la coalition Eau se donne plusieurs missions, mais la principale, c'est finalement faire du plaidoyer pour engager davantage les décideurs politiques dans cette garantie du droit à l'eau et à l'assainissement.
Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est un plaidoyer, parce que je suis pas sûre que tout le monde le sache.
Oui, alors le plaidoyer, c'est finalement, ça consiste à influencer à l'aide de leviers différents les décideurs et les décisions qui pourraient être prises pour obtenir des changements durables, des améliorations sur les différents chantiers qu'on s'est fixés.
Donc, autrement dit, c'est du lobbying, c'est ça ?
Alors, le lobbying, en fait, dans le plaidoyer associatif, on considère qu'il y a plusieurs modes d'action et le lobbying est un des piliers du plaidoyer. Mais on identifie aussi l'expertise, le développement d'expertise. Nous, on travaille beaucoup sur la publication d'études, sur des rapports, on travaille des consultants pour essayer d'étoffer aussi nos propositions et essayer d'avoir des propositions les plus... les plus novatrices et les plus pertinentes au vu des problèmes qu'on a pu identifier. Donc il y a le lobbying, il y a l'expertise, il y a aussi la mobilisation citoyenne et la communication. Comment? Et tout ça vient créer la dynamique du plaidoyer.
Comment vous êtes reçu par les politiques de tous bords? Est-ce que vous êtes entendu ou ils considèrent que c'est une préoccupation secondaire, surtout en France? Vous l'avez dit, il y a quand même que 1% des gens, et c'est déjà énorme, hein, mais 1% de nos concitoyens qui n'ont pas accès à l'eau. Est-ce que les politiques, c'est quelque chose d'important pour eux ou est-ce qu'ils s'en moquent?
Alors c'est assez délicat en fait, parce que c'est vrai que sur la question du droit à l'eau, tout le monde est d'accord. Quand on parle d'eau, tout le monde se dit c'est important. Après on fait face à des blocages politiques parce que c'est engageant, parce que ça demande des politiques publiques assez ambitieuses, et ce sont des choix finalement de faire en sorte que aussi des populations précaires puissent avoir accès à l'eau. Donc jusqu'à il y a quelques années, on a rencontré beaucoup de blocages. Il y a eu, par exemple, des propositions de loi sur le droit à l'eau qui ont été soumises au Parlement, à l'Assemblée nationale, au Sénat, et qui proposaient notamment, par exemple, le déploiement d'installations publiques, donc des fontaines à eau, des toilettes publiques, dans l'espace public, pour que toute personne puisse y accéder et avoir bénéficier de l'eau ou d'un accès à des toilettes. La tarification sociale est progressive, voilà, des mécanismes assez concrets pour garantir l'accès à l'eau et à l'assainissement. Mais finalement, ça a toujours été rejeté au Parlement, au
est-ce
Sénat notamment.
Est-ce qu'il y a, Edith Guillauchon, est-ce qu'il y a des partis, des couleurs politiques qui sont plus sensibles à cette question que d'autres?
Alors, il y a une proposition de loi en 2016 qui avait été portée par un député socialiste et qui avait été votée par l'Assemblée nationale de manière transpartisane. Donc, il y avait eu vraiment au moins cinq groupes parlementaires qui avaient voté la loi. Donc, c'était un véritable succès pour nous parce qu'on voyait que c'était porté politiquement et que ça traversait les partis. Mais après, au Sénat, ça a été la proposition de loi a été écartée.
Et comment depuis, vous l'expliquez ça, justement, que ça soit écarté presque au dernier moment, quoi?
Parce que les sénateurs préfèrent le vin, peut-être.
je crois qu'ils ont pu dire ça en blaguant. On était aussi à une période proche des élections présidentielles en 2017, et c'est vrai que du coup tout sujet abordé devenait en soi très politique. Et là, c'était une proposition de loi qui venait plutôt des partis de gauche, et du coup, ça a été bloqué au niveau du Sénat. Mais il y a d'autres raisons, bien sûr. Souvent, les raisons qui sont invoquées, c'est que c'est une compétence des collectivités et que l'État ne doit pas intervenir de manière trop forte sur le sujet, ne doit pas donner d'obligation aux collectivités sur la question de l'eau, parce que c'est sa compétence et que la collectivité doit garder la maîtrise et le choix. Donc aujourd'hui, ce qui est fait dans la loi, c'est ça permet aux collectivités d'agir, par exemple de mettre en place des tarifications sociales, ou ça recommande des choses, mais ça n'oblige pas la collectivité.
Ça veut dire qu'il n'y a pas une politique de l'eau générale en France. Ça veut dire que certains ou certaines communes ou certaines collectivités vont être plus généreuses avec l'eau ou plus attentionnées envers un certain public que d'autres.
Tout à fait.
Donc
oui,
il va falloir sortir une carte, je ne sais pas si c'est le but de Coalition Eau, mais sortir une carte des endroits où l'eau est le plus accessible en France.
Oui, c'est ce qu'on essaye de faire. Et en fait, ça a été très flagrant pendant la crise sanitaire. Ça a été intéressant, cette crise sur la question de l'eau, parce que ça a mis quand même un projecteur fort sur cette problématique de l'accès pour tous à l'eau. En France, du coup, on s'est questionné, on a pris conscience que certaines populations n'avaient pas accès à l'eau, et encore moins dans les périodes de confinement où en fait toutes les aides associatives ont parfois dû s'arrêter, ou des installations publiques ont été fermées. Les personnes qui comptaient sur ces politiques publiques ne étaient démunies. Et donc il y a eu dans certaines collectivités, avec des associations, en lien aussi avec les délégataires de services publics, des choses très intéressantes qui ont été faites, des raccordements à l'eau de d'habitats informels, des bidonvilles, des zones qui ont été connectées comme ça à l'eau, le déploiement de fontaines publiques et dans d'autres collectivités, du coup non. Donc on voit de manière assez flagrante qu'il s'agit d'un choix politique et d'une dynamique lancée en concertation aussi avec les différents acteurs qui peuvent s'investir dans le secteur. Et sur la question de la carte, c'est intéressant parce que l'année dernière, on a voulu lancer, alors on a appelé ça un observatoire du droit à l'eau, à l'assainissement, et pour essayer de comprendre ce qui pouvait se passer dans différentes collectivités. Alors, pour l'instant, on a analyser, étudier cinq grandes villes que sont Paris, Marseille, Toulouse, Montpellier et Bordeaux, et voir un peu les dynamiques qui existaient et qui ont pu aussi bouger pendant la crise sanitaire et faire un état des lieux de où on en est aujourd'hui sur les problématiques de non-accès à l'eau dans ces territoires.
Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est de Toulouse, puisque nous émettons de Toulouse?
Alors, à Toulouse, que je me remémore un peu, à Toulouse, il y avait une politique assez... c'est-à-dire que la mairie était plutôt bloquante sur, en tout cas, les accès à l'eau dans les...
Oui, elle préfère les caméras, nous le savons, ça, qui sont totalement inefficaces et qui nous coûtent un pognon de dingue, comme dirait un certain...
Mais c'est vrai que sur les raccordements à l'eau des par exemple des bidonvilles ou des squats, il y avait c'était plutôt bloqué, et les associations durant la crise sanitaire ont même été jusqu'à déposer un référé liberté au tribunal administratif pour invoquer une condamnation de la mairie, mais aussi de la métropole pour non-action dans l'accès à l'eau des populations précaires. Référé liberté qui a été rejeté par le tribunal administratif, qui a pu invoquer le fait qu'il existait des accès à l'eau malgré tout. Mais c'est là aussi...
Il s'agissait de bords d'incendie, me semble-t-il.
Voilà, et c'est là où c'est intéressant aussi de voir que finalement, on manque en France d'un référentiel qui soit adapté à la situation en France sur qu'est-ce qu'on considère comme étant un accès adapté, sûr et digne à l'eau. Parce qu'en fait, on n'a pas de standards. Les standards qui existent au niveau international sont souvent des standards utilisés pour les situations humanitaires post-crise et qui ne convient pas à la situation en France. Donc, on n'a pas de standard commun, et donc l'appréhension que a pu avoir la puissance publique de « il existe un accès à l'eau à 900 mètres et c'est une borne à incendie », les associations disaient « non, c'est pas un accès à l'eau qu'on peut considérer comme étant adapté. Nous, on recommande un accès à l'eau qui soit à moins de 200 mètres, qui soit un robinet et pas une borne incendie, ce qui est quelque chose d'illégal en réalité. »
Et oui, on ne peut pas utiliser de borne à incendie. Il y a une responsabilité colossale à vider ce type
tout
de borne, hein, j'imagine.
Tout à fait, est-ce ça porte préjudice à l'état de la qualité de l'eau aussi.
Tout à fait. Est-ce que, Edith Guillochon, est-ce qu'on peut considérer que pour certains... l'accès à l'eau est une arme, c'est-à-dire si je ne veux pas avoir finalement de population un peu défavorisée, je suis dans l'euphémisme, je peux au moins leur couper l'eau, ça va les écarter de ma ville ou de mon centre-ville.
Je pense que c'est un des choix qui peut être fait parfois, enfin, en effet, c'est assez criant sur la situation dans le littoral nord autour de Calais, mais aussi dans certaines villes où il peut y avoir des poches de bidonvilles, le fait de... On peut se dire qu'enlever l'eau va faire que les gens vont partir. Mais en fait, c'est complètement irréaliste, parce qu'en fait, des personnes vont chercher l'eau. On ne peut pas vivre sans eau. Il va y avoir... Les personnes qui sont présentes quelque part vont aller chercher de l'eau, et si on le fournit pas de manière adaptée, ça va être effectivement du coup se connecter de manière plus ou moins sauvage à des réseaux d'eau. Mieux organiser la distribution de l'eau sera bénéfique, au contraire même pour éviter l'exclusion, c'est-à-dire donner l'eau à une personne va aussi lui permettre de mieux s'éduquer, d'aller travailler, de se laver, et du coup d'être de s'intégrer.
Et Edith Guiochon, justement, pour synthétiser ce que vous dites, si je comprends bien, en fait, il y aurait une vision un peu sécuritaire de la gestion de l'eau, ce que vous venez d'évoquer, et tout l'enjeu, ça serait de basculer vers une vision plutôt sanitaire, c'est ça ?
Oui, totalement. Il y a aussi une logique de se dire, en fait, à une époque, l'eau, elle était au cœur de la cité, finalement. L'eau, elle était partout, il y avait des fontaines, il y avait des bains-douches. Aujourd'hui, on est dans un système où l'eau, elle est à domicile. Donc, c'est aussi notre mode de vie aujourd'hui. Mais il y a aussi un intérêt à se dire, on remet l'eau au cœur de la cité, on remet l'eau dans l'espace public pour qu'il soit accessible aux personnes qui en ont besoin parce qu'elles n'ont pas cet accès permanent à un robinet comme nous on peut l'avoir, mais aussi pour toute personne qui peut se balader dans l'espace public.
En fait. Et alors justement, on parlait d'enjeux au niveau territoriaux. Je me posais une question en vue des présidentielles de 2022. Est-ce que pour vous, coalition, avec votre collectif, il y a une fenêtre d'opportunité pour faire entendre justement vos propositions ?
Tout à fait. Les moments d'élection, surtout les élections présidentielles, c'est toujours un moment pour essayer de mettre... à mettre dans les débats notre sujet. Donc nous, on va être bien sûr présents dans ce moment de campagne pour essayer de parler de ces enjeux-là, d'aussi invoquer le fait qu'on est en train de vivre ou on va vivre une crise globale de l'eau. En fait, la crise du changement climatique, c'est aussi une crise de l'eau et c'est comment on peut y faire face, en fait, collectivement. Aussi en France et aussi à l'international, il y a des enjeux géopolitiques aussi autour de la ressource en eau. Donc ça va être un moment assez fort pour parler de ces questions-là, bien sûr.
Ce qui est certain, c'est qu'on aura toujours de l'eau, mais on ne sait pas où elle va tomber, à quelle quantité, à quelle fréquence,
exactement,
à quel rythme. Et on aura certainement, à la place de ce qu'on connaissait, les petites pluies régulières, on aura de plus en plus de pluies d'orage, vraisemblablement, sur des périodes courtes dans la journée, avec des périodes de sécheresse qui vont suivre et des ravinements. Une forte pluie, ça n'est jamais une bonne chose, ça ne pénètre pas dans le sol et ça ne vient pas abonder les nappes phréatiques. Donc on peut quand même être inquiet. On a déjà dans une situation qu'on va qualifier, Aude, d'à peu près normale. On va tomber demain dans des choses complètement différentes. Et j'imagine que les 1% que vous évoquez pour revenir à la France tout à l'heure risquent de s'augmenter notablement.
Oui.
Oui, alors c'est une vision certes pessimiste. Moi, j'aimerais bien qu'Edith nous donne un petit peu d'optimisme. Est-ce qu'il y a des propositions ou des exemples que vous faites qui pourraient nous donner un petit peu d'espoir?
Alors nous, on identifie quelques perspectives, en tout cas de changement, et on espère que ce sera des moments dont pourront se saisir les décideurs politiques. Il y a les élections présidentielles qui sont un moment fort, mais il y a aussi, au niveau européen, il y a une directive sur l'eau potable qui a été révisée à la fin 2020 et qui doit être transposée en droit français et qui évoque, dans l'un des articles, évoque la garantie de l'accès à l'eau potable pour les populations vulnérables. C'est la première fois qu'on pose ce terme de population vulnérable dans les questions d'accès à l'eau, en tout cas au niveau européen. Et donc la France devra se saisir de cet article-là et des autres, bien sûr, mais sur la question de l'accès de cet article et faire en sorte de proposer des choses pour qu'un accès à l'eau soit rendu possible pour les populations qui n'en bénéficient pas. Donc il y a des choses qui sont faites, et au niveau local aussi, il y a des collectivités qui proposent des choses très innovantes et qui arrivent à lier aussi la question de l'accès du service à la question de la ressource, et donc du coup à lier les problématiques de changement climatique, de sécheresse, de risques que ça peut faire poser sur la population, et adapter du coup son offre, son service d'eau potable. Donc c'est intéressant aussi d'arriver à lier les deux, en fait, à lier la question sociale et la question écologique et environnementale qui est très forte pour la ressource en eau. Et le volet adaptation au changement climatique, adaptation aux évolutions d'accès à la ressource, ce sera déterminant aussi sur toute la partie réseau, services et accès réel à l'eau.
L'eau se recycle ou pas ?
L'eau, alors il y a beaucoup de choses qui sont en cours, je pense, d'expérimentation. Il y a déjà des pays qui réutilisent leurs eaux usées. Alors parfois plutôt pour l'agriculture ou pour des seconds usages, pas forcément l'usage premier qui est de boire. Mais ça existe déjà, oui, l'utilisation des eaux usées. Il y a des controverses aussi sur les méthodes employées qui peuvent être assez utilisatrices d'énergie. Mais c'est des pistes aussi qui sont explorées, oui.
Est-ce que vous pensez qu'il puisse y avoir un conflit entre la ville et la campagne, puisqu'on sait aujourd'hui que l'agriculture est certainement le secteur le plus consommateur en termes d'eau, et que ces ponctions sur l'eau de surface représentent à peu près 70% du total des prélèvements?
Oui, alors à la fois, oui, l'agriculture consomme beaucoup d'eau. Puis il y a aussi le fait qu'en ville, on a une autonomie d'accès à l'eau qui est assez faible. Je crois qu'à Paris, s'il y avait un problème d'approvisionnement, on ne tiendrait pas forcément très longtemps. Donc il y a ce paradoxe-là. Après, il y a aussi des voies d'adaptation, c'est-à-dire que l'agriculture intensive et à haute teneur en irrigation peut être problématique sur la consommation d'eau. Mais on peut aussi imaginer essayer de développer d'autres formes d'agriculture qui soient peut-être plus résilientes aussi, plus adaptées à des irrigations plus faibles. Donc ça veut dire aussi revoir les modes de production, ce qu'on produit, comment...
Peut-être essayer de produire un peu moins de maïs, qui est une plante qui vient de zones intertropicales dans lesquelles la saison chaude normalement est favorable à la croissance, puisque c'est la saison des pluies, alors que nous, on le cultive essentiellement sur l'été où c'est la saison sèche. Donc on peut quand même se poser la question de savoir si l'on n'est pas, comme disent certains, excusez-moi du terme, un peu déconnant.
Et effectivement, ça demande de revoir beaucoup de... En fait, l'eau est tellement connectée à plein d'enjeux que ça impacte aussi cette problématique de l'alimentation, de la production agricole, de l'industrie aussi. L'industrie est assez consommatrice d'eau. Donc ce sont des enjeux forts et qui demandent des changements aussi assez radicaux dans la manière de produire. Donc c'est aussi un frein pour le changement, mais...
Oui, Aude.
Oui, ouais. Non, moi je me demandais si peut-être vous pourriez nous conseiller pour les auditeurs qui aimeraient aller un peu plus loin sur le sujet. Alors là, on parlait des usages industriels, agricoles, qui sont très dépensiers. Mais il y a aussi, je pense, des économies en termes de gestes du quotidien. Est-ce que vous auriez des lectures ou des sites à consulter?
Alors il y a un concept assez intéressant qui commence à émerger, il me semble, sur l'eau invisible, qui permet de se rendre compte aussi que l'eau qu'on consomme n'est pas que l'eau qu'on tire du robinet, qu'on boit ou qu'on utilise pour son quotidien, mais que finalement dans tous les objets qu'on va utiliser, dans l'alimentation bien sûr, mais aussi dans ses vêtements, ça implique une forte consommation d'eau. Il y a un site qui parle, qui décrypte bien ces enjeux-là, c'est la Water Family. Donc je pense que c'est accessible sur Internet. Voilà, ça permet aussi de comprendre que l'eau est vraiment partout et dans beaucoup de choses de notre quotidien, mais pas que la ressource.
Edith Guillauchon, merci. Je pense qu'on a fait un tour assez large, qu'on a également appris quels étaient les champs d'action de Coalition Eau. Vous avez peut-être un site sur lequel on puisse venir voir ce que vous faites?
Tout à fait. Vous pouvez nous retrouver sur coalition-eau.org. pour notre site internet et nous sommes aussi présents sur Twitter et Facebook.
Grand merci de nous avoir consacré ce temps et écoutez, peut-être qu'un jour prochain, mais vous reviendrez sur notre antenne pour nous parler de l'eau et de quelque chose qui est pour nous vital. Hein, vous l'avez dit, on ne peut pas vivre sans eau et malheureusement, on va devoir, dans les années qui arrivent, peut-être gérer l'affaire autrement qu'elle n'est aujourd'hui, puisqu'il y a quand même une grande inconscience. Hein, tout le monde laisse toujours les robinets ouverts, une douche, ça dépend combien on est sous la douche, mais globalement, ça, c'est quand même extrêmement consommateur en termes d'eau. Donc il va peut-être falloir que les particuliers vivent autrement, que l'industrie pense la chose autrement, et que surtout l'agriculture se réforme. Mais là, c'est un très très vaste chantier sur lequel nous reviendrons. Merci Edith Guillochon.
Merci à vous, merci, bonne fin d'émission.
Merci, au revoir.
Merci.
Voilà, bien écoutez, je pense que c'est un sujet, alors on vous l'a dit, on va parler de l'eau pendant un certain nombre d'émissions, parce que c'est absolument fondamental, on parlera aussi d'autres choses, je vous rassure, pas que de l'eau, les sujets en matière environnementale, et je dirais même terrienne, sont infinis. Mais pour l'heure, nous pourrions peut-être faire une pause musicale, une respiration. Alors, vous l'avez choisi, je vous laisse la présenter, Aude.
Oui, on va écouter « L'eau qui dort » de Douzkawa. Il faut aussi se méfier de « L'eau qui dort ».
Et qui est Douzkawa, tiens ?
Douzkawa est un rappeur, poète aussi. Je l'écoute depuis très longtemps et je vous laisse prendre plaisir à écouter son texte qui est très riche.
Allez, c'est parti.
Yeah. C'est juste une histoire d'eau qui s'aiguille sur le fil des cascades, mais de fil en aiguille, ôtez-lui les rêves où elle s'évade, elle deviendra un précipice agressif sur chaque bord. Il n'existe pas pire que l'eau qui dort. Que l'eau qui dort. Fils de la nuit et des rêves, moi je cultivais les chimères comme un talent. Les nymphes m'avaient pour élève qui persévère dans chaque verre en rêvant. Je lisais sur leurs lèvres couramment les signes du langage, des signes de l'étang. C'est ma force sans alarme, moi je vis dans les eaux calmes, simirant le narcissisme des étoiles. Parle à mes iris, mettre la lumière dans mes oreilles. Fille du pancalisme, les chimères devinrent réelles. Unique beauté du ciel, dans un monde de fiel. Unique sucré du ciel, sur la voie lactée de miel. Et puisqu'elles aiment les rêveries solitaires du ruisseau, les constellations s'isolent et reflètent les songes dans les cours d'eau et marécages. Les reflets de la lune sur le miroir des rivages. Mais la pluie vint ternir avec ombre et nuages. Les mélodies de la lyre sur les couleurs des images. On vit les cieux se couvrir avec le temps des orages venir. Les tristes cires matérialistes qui songent à définir pour oxyre la liberté des songes à l'avenir. Le rêve devient étrange. Cassandre ne prédit plus dans l'eau. Oublie tous les destins et au descendre du bateau morphée et clandestin. C'est juste une histoire d'eau qui s'aiguille sur le fil du ruisseau. Mais de fil en aiguille, ôtez-lui ses amours ruisselants. Se remplissant de colère, elle deviendra océan jusqu'au rabord. Il n'existe pas pire que l'eau qui dort. Yo. Yo. Fils de la nuit et des rêves, moi je cultivais l'amour comme un talent. Les nymphes m'avaient pour élève et les naïades pour amant. Car j'embrassais leurs lèvres couramment. Dessine avec des mots leurs mains au creux des lettres et leur corps contre mon être. L'intime, langage des abîmes de l'océan. Je vis dans les eaux profondes se troublant. Les filles de l'érotisme comme Vénus dans le ciel. Unique beauté à celle que j'imagine dans ce monde de fiel. Unique sucré du ciel surplombe des mers salines et des déserts de sel. Et puisqu'elle n'aime pas être seule comme mes salines, les constellations salies reflètent mes mirages comme des gouttes de lumière sur le miroir des rivages. Mais la pluie vint ternir avec ombre et nuages. Les mélodies d'amour mirent des notes un peu plus sages. On vit venir avec le temps des orages. Les tristes cires moralistes qui savourent à définir pour oxyre la liberté d'amour à l'avenir. Les cœurs deviennent étranges, blessés dans son talent. Cupidon, on imite plus le Comanche. Plus de péché mignon et d'Aphrodite qui s'allonge. C'est juste une histoire d'eau qui s'aiguille sur le fil des cascades. Mais de fil en aiguille, ôtez-lui les rêves où elle s'évade. Elle deviendra un précipice agressif
sur chaque bord.
Il n'existe pas pire que l'eau qui dort.
C'est juste une histoire d'eau.
Juste une histoire d'eau. Mais c'est juste une histoire d'eau.
Juste une histoire d'eau.
C'est juste une histoire d'eau.
C'est juste une histoire d'eau.
C'est juste une histoire d'eau qui s'aiguille sur le fil du ruisseau. Mais de fil en aiguille, ôtez-lui ses amours ruisselants. Se remplissant de colère, elle deviendra océan jusqu'au rabord. Il n'existe pas pire qu'une histoire d'eau qui s'aiguille sur le fil des cascades. Mais de fil en aiguille, ôtez-lui les rêves. où elle s'évade. Elle deviendra un précipice agressif sur chaque bord. Il n'existe pas pire que l'eau, c'est juste une histoire d'eau qui s'aiguille sur le fil du ruisseau. Mais de fil en aiguille, ôtez-lui ses amours ruisselants, se remplissant de colère. Elle deviendra océan jusqu'au rabord. Il n'existe pas pire que l'histoire d'eau qui s'aiguille sur le fil des cascades. Mais de fil en aiguille, ôtez-lui les rêves où elle s'évade. Elle deviendra un précipice agressif sur chaque bord. Il n'existe pas pire que l'eau qui dort. Il n'existe pas pire que l'eau qui dort.
Que l'eau qui dort.
Voilà notre rappeur qui nous a parlé d'une autre façon de l'eau. Eh bien écoutez, on va passer à la rubrique des brèves, qui ne sont pas si brèves que ça d'ailleurs. On va rester dans l'eau pour la première. Alors c'est moi qui vais vous en parler. Moi je vais vous parler des coraux. Et donc on est dans l'eau qui est plutôt salée là. Tout ça pour vous dire que la planète a perdu 14% de ses coraux entre 2009 et 2018. Alors ça, c'est le résultat d'une analyse menée par 300 chercheurs. Alors les coraux, ça ne représente pas une superficie énorme, hein, c'est relativement modeste, c'est de 0,2% du fond des océans. Donc superficie modeste, mais pouvoir d'attraction énorme, puisque ces récifs contiennent une biodiversité extrêmement importante et abrite au moins 25% des réserves des espèces marines. Or, l'état des coraux, on l'a dit, c'est extrêmement préoccupant. On a perdu, quand je disais tout à l'heure, 14%, on a perdu 11 700 km² de coraux. C'est absolument colossal. Davantage d'ailleurs que la totalité de ceux-ci vivant sur les récifs coralliens d'Australie. Le déclin ne s'observe pas qu'en Australie, qui est un pays extrêmement pollué, contrairement à ce qu'on pourrait penser, notamment à cause des activités extractives, mais on en reparlera un autre jour. En tout cas, le déclin s'observe partout sur la planète. C'est une étude, vous pouvez aller la voir si le sujet vous intéresse. Elle a été publiée le mardi 5 octobre et c'est ces 300 chercheurs font partie d'un réseau mondial de surveillance de l'Initiative internationale pour les récifs coralliens. Ça se dit aussi en anglais, mais je vous le dis en français, l'Initiative internationale pour les récifs coralliens. Et elle s'appuie sur plus de 2 millions de données recueillies en 40 ans, de 1978 à 2019, dans plus de 12 000 sites sur 73 pays. Donc vous voyez que ce n'est pas quand même quelque chose qui a été bâclé, c'est pensé, il y a du recul, il y a du temps, il y a du travail. Et cette vaste analyse montre que les vagues de chaleur constituent actuellement le principal danger, car elles génèrent des phénomènes de blanchissement de plus en plus fréquents des coraux. Et les récifs ne disposent plus du temps nécessaire à leur régénération entre deux épisodes de stress, parce que la chaleur les stresse. Ces conclusions, bien sûr, sont en résonance avec celles du GIEC. Vous savez ce que c'est que le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui estimait dans son rapport spécial sur l'océan et la cryosphère qu'ils avaient remis en 2019, que 70 à 90% du corail pourrait disparaître avec une augmentation de température de 1,5 degré. Et avec 2 degrés supplémentaires, bien c'est la quasi-totalité, 99% des coraux qui seront condamnés. Alors nous savons qu'aujourd'hui, les 2% sont allègrement dépassés. Donc là aussi, nous sommes en train de massacrer un morceau essentiel de la Terre. Et n'oublions pas que tout ça, ce sont des dominos. Hein, lorsque l'on en retire un, tout s'écroule. Aude ?
Oui, mais moi je vais vous parler de l'affaire du siècle, puisque la justice a enfin tranché hein, et ordonne au gouvernement de réparer le préjudice écologique dont il est responsable. Le gouvernement a jusqu'au 31 décembre 2022 pour réparer le préjudice écologique causé par le non-respect des engagements de la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'ultimatum vient de lui être fixé par le tribunal administratif de Paris dans une décision rendue publique le jeudi 14 octobre dans le cadre de cette affaire du siècle. Elle enjoint cette justice au Premier ministre de prendre toutes les mesures sectorielles utiles de nature à réparer le préjudice, mais aussi de prévenir l'aggravation de ces dommages. Dans le collimateur des juges, finalement, c'est le dépassement du premier budget carbone qui concerne la période 2015-2018. Le tribunal y révèle que le plafond d'émissions de gaz à effet de serre a été dépassé de 62 millions de tonnes équivalent de CO2. On a bien entendu, 62 millions de tonnes équivalent de CO2, c'est énorme. L'évaluation du préjudice se fonde sur la date du jugement. Le tribunal précise que la réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre en 2020 bien que lié de façon prépondérante aux effets de la crise sanitaire due au Covid-19 et non à une action spécifique de l'État, doit tout de même être prise en compte dans la mesure où elle permet pour partie de réparer ledit préjudice. Aussi, les juges estiment que finalement le préjudice perdure à hauteur de 15 millions de tonnes équivalent CO2 et non de 62 millions.
Autre rapport, alors il y a des juges, il y a des rapports, il y a des gens qui quand même qui travaillent, il y a des gens qui produisent, il y a des universitaires, il y a des magistrats, on l'a vu, il y a des agences gouvernementales, des ONG. Et moi je voudrais parler du dernier rapport de la Banque mondiale qui est sorti le 13 septembre, alors ça s'intitule en anglais « Groundswell », et ce qui veut dire « lame de fond ». Et que nous dit ce rapport ? Il nous dit tout simplement que le changement climatique, et on revient presque au problème de l'eau, on l'a effleuré tout à l'heure avec Edith, le changement climatique constitue un facteur de migration de plus en plus puissant et qui pourrait contraindre d'ici à 2050 jusqu'à 216 millions de personnes à migrer à l'intérieur de leur pays à la recherche de meilleures conditions de vie. Donc je vois, on pourrait transmettre peut-être les chiffres et puis un peu ce rapport à Monsieur Zé, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin, bon, voilà, quand il nous agite beaucoup avec des migrations, ok, mais mon grand, regarde ce qui est devant nous, regarde ce qui nous attend, parce que là, une vague de 216 millions de personnes, c'est quand même pas rien. Donc, il est important de noter que cette projection n'est pas figée. Qui c'est qui nous dit ça ? Bien, c'est Jürgen Vogele, le vice-président de la Banque mondiale qui est chargé du développement durable. Et je le recite dans son communiqué. « Si les pays commencent dès maintenant à réduire les gaz à effet de serre, à combler les écarts de développement, à restaurer les écosystèmes vitaux et à aider les gens à s'adapter, les migrations climatiques internes pourraient être réduites jusqu'à 80%. » Vaste chantier, comme dirait un certain. Oui, voilà, il faudrait faire tout ça, mais il faudrait ne plus en parler, ne plus le dire, même dans des réunions internationales, il faudrait commencer à le mettre en pratique. Alors, ce rapport vient compléter le premier du genre qui avait été publié en 2018 et qui s'était focalisé sur trois régions du monde, l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud et l'Amérique latine. Et l'institution avait alors projeté 143 millions de migrants climatiques d'ici à 2050 pour cet ensemble géographique. Et elle a cette fois ajouté trois autres régions, l'Asie de l'Est et le Pacifique, l'Afrique du Nord et puis l'Europe de l'Est et l'Asie centrale. Vous voyez que là aussi, nous avons un vaste champ de réflexion, des réflexions qui ne devraient pas tarder, être trop longues pour laisser la place à l'action. Aude ?
Oui, moi je vais vous parler de l'Arctique.
Alors, on va se geler un peu alors.
Un petit peu. Mais vous allez voir, ça va se réchauffer puisque je vais vous parler de pétrole et de gaz. Puisque dans un rapport publié jeudi 23 septembre, l'ONG Reclaim Finance dénonce les règles floues à géométrie variable ou insuffisantes édictées par les quelques 120 banques qui financent les nouveaux forages dans le Grand Nord. Alors l'Arctique, c'est un territoire unique et fragile qui abrite des joyaux de biodiversité et contribue à réguler le climat de la planète entière, mais aussi une zone hostile aux conditions climatiques extrêmes qui rendent toute activité économique des plus périlleuses. En dépit de ses limites, l'Arctique est désormais une terre de forage. On y dénombre 599 champs pétroliers et gaziers en production, en développement ou découverts. Plus inquiétant, leur production devrait augmenter dans les prochaines années, portée par le soutien financier des banques, des investisseurs et des assureurs. Une hausse également permise par des règles, comme je le disais, floues, à géométrie variable ou insuffisante, édictées par ces acteurs financiers pour préserver la région. Ces chiffres et ces projections inédites dévoilent l'ampleur de l'expansion de l'industrie pétrogazière dans le Grand Nord. La fonte accélérée de la banquise arctique sous l'effet du changement climatique facilite l'extraction et le transport des hydrocarbures contenus dans les vastes réserves que renferme le sous-sol du Grand Nord. Ça attise effectivement les convoitises de l'industrie pétrogazière et ce n'est pas vraiment rassurant.
Non, pour le bois, nous ne sommes pas très très optimiste, mais c'est vrai quand on parle des conditions de l'environnement, de la terre, de la déplétion des matières premières, de la pollution, on a un peu de mal à être quand même totalement jovial. On se fait une deuxième pause musicale juste pour le plaisir. C'était l'anniversaire de la mort des 100 ans de Georges Brassens. Nous avons aussi un monsieur qui s'appelle Marty. Je ne sais pas, au moins pour les Toulousains ou les gens de Midi-Pyrénées, pour ne pas dire d'Occitanie, on sait qui c'est. Eh bien, Marty, qui a été longtemps un grand barde, un autre grand chanteur, s'est intéressé aussi à Brassens et il le chante en occitan.
Espertuva que lo canso de la música que se enfaizó más vaya de esta leño en se candimavido fazio fred de que más vaya de foca la y crucanto se lo y crucan hoy venezis los sonoras ma bion clava la porto al nas pero tu chest un foc de res, mas ma viu calentar un cos, pedim un amo brillo fort, facem d'estiu dimoni bé. I la música moriràs, que en terra mort t'emportarà, que te mené per l'estrella al paire de lluny. Espetua que lo canso de los tesos que se no fais mas vaya tu pau de tumpa que en dimma vida fas jo pa tu que es divert a mas trucant la i crucant os de lo i crucant los benesis los honorats de jo de bebé i de junar però jusque trost melute, mas ma viu calentar l'ocos, e dimonar mon brillo, mas en estiu dimon i ve. Tu l'ostesso que moriràs, que en terro morts te portarà, que te mené per l'estiu, pel paire de lui. Que lo canso de l'estranger que se'n fa i su l'el malurós m'has regardat que en l'ull gendarmes m'han menat tu que n'has pas aplaudit tant l'ai crocantos de l'ull crocant l'ull benesits l'ull honorats visió de me veir agafat però tu just que pau de me mas ma viu calentar l'un cos e dim un armo brillo fort en claus i escuro un gran solet tu l'estrangi que moriràs que en terra morts t'emportarà que te mené per l'estrella al paire de llum.
Voilà, Georges Brassens qui, avec Marty, notre poète occitan, nous chantait quelque chose que vous n'avez pu que reconnaître. Nous arrivons, Aude, à la dernière partie de notre émission Arcania, toujours sur Esprit Occitanie, bien sûr. Nous parlons de l'état de la planète et nous parlons de ce qui se passe, de ce qui pourrait se passer, de ce qui se passera certainement, et je rajouterai presque malheureusement, mais vous savez que sur cette question, je suis un peu pessimiste. Dernière rubrique, conseil culturel, une lecture, Aude ?
Oui, Jacques, moi j'ai envie de vous parler aujourd'hui de la stratégie de l'émotion d'Anne-Cécile Robert. J'ai beaucoup aimé cet ouvrage. Anne-Cécile Robert est spécialiste de l'Afrique et des institutions européennes d'ailleurs. Elle est journaliste au Monde diplomatique et professeure associée à l'Université Paris 8. Dans cet ouvrage, donc La stratégie de l'émotion, Anne-Cécile Robert montre finalement comment les émotions, elles dévorent l'espace social et politique au détriment des autres modes de connaissance du monde, notamment de la raison. Certes, comme le disait Hegel, rien de grand ne se fait sans passion, mais l'empire des affects met la démocratie en péril. Il fait régresser la société sous nos yeux en transformant des humains broyés par les inégalités en bourreaux d'eux-mêmes, finalement. Ça va les inciter à pleurer plutôt qu'à agir. Alors en fait, Anne-Cécile Robert, dans cet ouvrage, vient mettre une pierre un petit peu à l'analyse de Noémy Klein sur le contrôle social et la stratégie du choc, hein, fameux ouvrage. Elle va y rajouter, elle, sur le contrôle social par l'émotion. Elle va analyser finalement les manifestations les plus célèbres et les plus délétères, hein, narcissisme compassionnel des réseaux sociaux, discours politique réduit à des prêches, omniprésence médiatique des faits divers, mise en scène des marches blanches, etc. Elle mène une réflexion salutaire sur l'abrutissante extension du domaine de l'alarme et un plaidoyer civique pour un retour à la raison.
C'est une sociologue ?
Non, c'est une journaliste.
Oui, je pensais qu'elle était sociologue. Il y a des thèmes un peu chers à un sociologue avec qui je travaille souvent, qui est Gérald Bronner.
Tout à fait. Hein?
Alors moi, de mon côté, bien, deux livres pour le prix d'un. Alors le premier, c'est « L'homme, la faune sauvage et la peste », c'est chez Fayard, c'est Serge Morand. Alors Serge Morand, c'est un écologue de la santé qui est directeur de recherche au CNRS et au CIRAD, et qui s'est expatrié parce qu'il a considéré, et il l'explique dans la préface de son livre, que les conditions de chercheurs dans notre beau pays ne permettent pas véritablement de faire des travaux sérieux, fouillés en profondeur. Et il est allé à la faculté de médecine tropicale de Bangkok, qui est en Thaïlande, comme chacun sait. C'était pas pour lui du tourisme sexuel, mais du tourisme scientifique. On l'a d'ailleurs vu dans un certain nombre de reportages sur nos antennes nationales. Donc, l'homme, la faune sauvage et la peste, vous voyez le rapprochement de ces trois. Il l'a écrit juste au moment, quelques mois après le démarrage du Covid, qu'il a bien vécu lui, puisqu'il était en première ligne et donc il a pu l'analyser. Alors je vous conseille chaudement ce livre, je dirais presque, si vous n'êtes pas satisfait, je vous le rembourserai parce que c'est un livre assez fabuleux et Serge Morand est un homme de grande, un scientifique de grande qualité. L'homme, la faune sauvage et la peste chez Fayard. Et puis un livre qu'il me semble qu'il faille lire aussi, je l'ai recommandé l'autre jour dans l'émission économique de la station Economica que j'anime avec Anisla, mais je le redis parce qu'il mérite que l'on... C'est un petit livre, hein, que l'on se le procure rapidement. Ça s'appelle « Le pétrole, le déclin est proche », qui est fait par Mathieu Ozano et qui a travaillé sur ce livre avec Hortense Chauvin. C'est édité par Le Seuil et Reporter. Mathieu Ozano, c'est un de nos grands spécialistes français du pétrole. Il a écrit une somme absolument fabuleuse, s'appelle L'or noir, qui a été réédité d'ailleurs en poche à La Découverte, qui est une référence, hein, si vous voulez savoir pourquoi notre civilisation est ce qu'elle est aujourd'hui, pourquoi nos rapports géopolitiques sont ce qu'ils sont, eh bien vous lisez L'or noir et vous allez tout comprendre. Moi j'ai regretté qu'il ne l'a pas écrit quand j'avais 20 ans, quand j'étais à l'université, parce que j'aurais certainement eu une vision du monde un peu différente. Et là, dans ce pétrole, le déclin est proche, eh bien Mathieu Ozano, c'est un peu une piqûre de rappel, mais surtout il insiste sur la déflation du pétrole, qui aujourd'hui, il y a de moins en moins de pétrole. Alors on voit déjà, dès qu'il y a des tensions, on voit comment l'économie s'enrhume. Imaginez, demain, le pic pétrolier est atteint aujourd'hui, ça veut dire qu'on n'en trouvera pas plus, il y en aura moins. Imaginez ce qui va se passer. Le pétrole, ça sert bien sûr à tout ce qui est déplacement sous toutes ses formes, mais vous trouvez du pétrole partout, vous en trouvez dans votre assiette, vous en trouvez dans la chimie, vous en trouvez dans les médicaments, vous en trouvez dans tous les plastiques divers et variés qui nous polluent, etc. Donc imaginez demain une vie avec beaucoup moins de pétrole, pour ne pas encore dire sans pétrole, ça va beaucoup nous changer. Voilà, nous sommes arrivés quasiment à la fin de notre émission. C'était donc Arcania, vous l'aviez compris, une émission avec Aude Sturma qui faisait sa première aujourd'hui. Donc voilà, elle l'a très bien faite, une émission d'Aude Sturma et de Jacques Lavergne avec à la réalisation Tiffaine Lemaine, que je remercie. Vous pourrez bien sûr retrouver le podcast de cette émission sur le site d'Esprit Occitanie, là où vous trouverez d'ailleurs tous les autres podcasts À très bientôt pour une nouvelle édition d'Arcania. Belle journée à toutes et à tous. Au revoir.
Belle journée. Au revoir, Jacques.